Nous prenons la parole dans le psaume 127. Psaume 127. Au premier verset. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Le Seigneur dit, s'il ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous avons toutes sortes de projets, toutes sortes de constructions, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, tout le long de notre vie sur terre. Nous sommes remplis de cela. Ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être la recherche de l'argent pour être bien, rechercher un travail, bâtir une église, gérer un ministère. Nous avons toutes sortes de constructions et nous avons toutes sortes aussi de villes à garder. Il y a le fait de garder son foyer à l'abri du divorce, garder un coffre-fort qu'on a à la maison, peu importe les choses, mais on a des choses à garder. Garder la confiance d'un ami, garder une amitié, on a des choses à garder. Et la Bible dit, si ce n'est pas Dieu qui garde tout ça, tous ceux qui gardent, gardent en vain. Ils peuvent mettre des caméras. Ils peuvent mettre des policiers à tous les coins de rue. Mais ils gardent en vain. Et il y a eu des chefs d'État qui sont morts malgré les hélicoptères qui les gardaient, malgré les gardes du corps. Il y a Kennedy qui est mort comme ça. Il y a beaucoup de chefs d'État qui ont subi des coups d'État, qui ont été tués. Mais ils avaient toutes sortes de gardes. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas les chevaux qui protègent les rois. Ce n'est pas une grande armée qui protège le roi. C'est Dieu. Quand Dieu n'a pas décidé sur toi, personne d'autre ne peut décider. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui garde les choses. C'est lui qui gardera ton intelligence. C'est lui qui gardera ta santé. Nous avons toutes sortes de choses à garder. Et la Bible nous dit, si ce n'est pas Dieu qui garde, tu gardes en vain. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit, on bâtit en vain. Et ce qui est étonnant, c'est que la Bible dit, en vain, vous vous levez de bon matin, au verset 2. Vous vous couchez tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà ce que Dieu dit. Vous vous levez le matin très tôt pour aller au travail. Vous vous couchez tard. Mais pendant que ses bien-aimés à lui, les gens qui aiment Dieu, dorment, Dieu leur a déjà donné ce que vous vous obtenez par le dur labeur du travail. Il dit, vous mangez le pain de la douleur. Ce n'est pas seulement le travail physique, bien-aimé. Il y a des gens qui stressent avant de produire quelque chose. Ils stressent terriblement. Ils s'inquiètent. Ils sont perturbés, ils cherchent tel piston, il cherche telle amitié, il y a des pasteurs qui cherchent des membres. Il y en a qui cherchent à devenir le plus grand chanteur ou le plus grand musicien, avoir un groupe solide. Il y en a qui cherchent, qui bossent, qui sont inquiets. Il dit, mais pendant que vous vous cherchez, vous bossez, vous vous inquiétez, moi je vais susciter juste un simple homme, une simple femme. Il va faire tout ce que vous cherchez à faire là, mais lui il va faire ça dans le repos, tranquillement, avec joie, sans s'inquiéter. Je vais l'utiliser pendant que vous travaillez pour vous constituer une force, vous constituer un grand potentiel. Moi je vais utiliser quelqu'un qui n'était même pas connu, qui n'a même pas travaillé comme vous. Mais il va faire les mêmes choses que vous, sinon plus. Et en plus, lui, il dormait pendant que moi, je le bénissais de tout ce que vous avez obtenu dans le travail. Lui, il dormait, il se reposait. Donc, ça veut dire, ceux qui sont de Dieu, ben, ils sont en paix pendant que Dieu travaille à leur place. C'est pourquoi Dieu dit, gardez silence, c'est moi qui combattrai pour vous. Pendant qu'il dorme. Est-ce que Dieu encourage la paresse? Non, nous allons le voir. Ce n'est pas que Dieu encourage la paresse. Dieu dit une chose. Pour obtenir la bénédiction, pour obtenir des choses, il faut s'accrocher à lui. Comme c'est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez les restes. Si on est branché à Dieu, eh bien, on travaillera au bon moment, on fera les choses au bon moment et on aura certainement. Alors que si on n'est pas branché à lui, on peut faire tous les efforts. On peut remuer ciel et terre, s'inquiéter, chercher des amitiés, chercher des coalitions, chercher des pistons. Tout ce qu'on va faire, ça sera dans l'eau. Un jour ou l'autre, ça se montrera que c'est dans l'eau. Aujourd'hui, tout ce que Michael Jackson avait fait pour se construire une autorité, tout cela est tombé. On suppose même qu'il est mort par suicide. Tout ça est perdu. Tout ça est perdu. Endetté, santé qui ne va pas, et c'est la mort, bien-aimé. Dieu dit, ceux qui gardent la ville, sans lui, ils gardent en vain. Tu peux toujours utiliser la manipulation. Tu peux toujours utiliser la beauté physique. Tu peux toujours utiliser l'intelligence du cerveau. Mais tout ce que tu vas faire va se révéler être vain. Un jour ou l'autre, ça se verra que c'était vain. Voilà tout ce que tu as fait comme sacrifice, mais ça n'a rien produit finalement. Tu pensais retenir un mari ou une femme avec une méthode humaine. Tu pensais en trouver avec une méthode humaine. Un jour, cela se verra que clairement, ça se verra clairement que tout ce que tu avais fait était vain parce que tu n'as pas bâti avec Dieu. Ceux qui baptisent sans Dieu baptisent en vain. Cela va se montrer. Tu avais rempli une salle avec des méthodes de marketing spirituel. Eh bien, un jour, ça se verra que tu l'as rempli, non pas de brebis, mais de boucs. Ou alors, ça se verra que ça se videra et tu comprendras que ce n'était pas selon Dieu et ça se vide. Bien-aimé, on peut tout faire. Si on le fait sans Dieu, nous bâtissons en vain. Nous lisons Marc 4, 26 à 29. Marc 4, 4. La Bible dit ceci. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Le Seigneur dit, c'est comme quelqu'un qui sème. Voilà le système de Dieu. Tu sèmes et tu attends que Dieu fasse croître, fasse produire l'arbre et le fruit tout formé. Et bien aimé, l'une des choses les plus parfaites dans ce monde, c'est les fruits. Quand vous mangez un fruit qui est bien mieux, qui est bien fait, qui est arrivé à sa maturité, vous sentez une sensation de perfection. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien à rajouter. C'est ça un fruit. Quand on le mange, on a l'impression qu'il n'y a rien à rajouter. C'est bien fait. Alors qu'on peut manger un plat, sentir qu'on peut mettre un peu de sel, un peu de quelque chose. Mais quand on mange un fruit, on a l'impression que rajouter quelque chose gâcherait. C'est parfait. C'est que Dieu est parfait. Il dit, mais comment cela s'obtient lorsqu'un homme sème? La logique de Dieu, c'est s'aimer. Il dit, quand cet homme-là a sémé, qu'il dorme, qu'il arrose, qu'il fasse des gymnastiques ou pas, ça va croître quand même. Donc, qu'est-ce que Dieu le conseille dans ce cas-là? Mais mieux, vaut mieux qu'il dorme, puisque qu'il arrose, qu'il fasse des gymnastiques, qu'il fasse tout ce qu'il veut, ça croîtra de la même manière. Donc, autant qu'il dorme. Et voilà ce que Dieu conseille à ses élus, à ses bien-aimés. Il dit, confiez-vous en moi. Dormir là, c'est confier en Dieu. Confiez-vous en moi. Ne pensez pas que les gymnastiques que vous pouvez avoir dans vos têtes, les manipulations que vous pouvez faire chez les gens, la séduction, que ce soit la séduction par l'argent, la séduction par la beauté physique, la séduction par des belles paroles, ce n'est pas ça avec ça qu'on peut bâtir quelque chose. Ce n'est pas avec un travail acharné physique. On produira des choses, mais Dieu appelle ça dans le psaume 127, le pain de douleur. Tu produis, mais tu as même peur de manger, de peur de manquer. Parce que tu es esclave du travail. Il dit, c'est le pain de douleur. Quelqu'un a son salaire, mais il n'est pas heureux. Quelqu'un regarde sa production, mais il n'est pas heureux parce qu'il a trop travaillé. Il n'est pas heureux parce que ça n'a pas un bon goût. Dieu bien-aimé veut qu'on produise dans le repos, dans la foi en lui, qu'on travaille au bon moment, qu'on sème au bon moment. Et là, nous serons heureux. Bien-aimé, tu peux être un pasteur avec beaucoup de membres dans l'église, mais tu n'es pas heureux parce que tu as créé une sorte de police pour écouter tout ce que les gens disent, pour essayer de faire des prédications en fonction du moment. Et ce n'est pas la joie, c'est la police, ce n'est pas le bonheur. Tu peux toujours être un pasteur très riche, mais tu sais dans ton cœur que tu obtiens cette richesse par l'argent volé. On crée des théories comme quoi la dîme appartient au pasteur. Eh bien, tu sais bien dans ton cœur que c'est faux. Et quand tu manges, même si tu es dans une belle maison, tu sais que tu as volé. Tu n'es pas bien. C'est le pain de douleur. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Bien-aimé, on peut se convaincre qu'il y a des moments, même on utilise certains versets pour bâtir des choses, pour afficher un comportement. Mais dans ton cœur, tu sais bien qu'aucun verset ne t'autorise à haïr quelqu'un. Aucun verset ne t'autorise à critiquer quelqu'un. Aucun verset ne t'autorise à mentir. Mais tu peux toujours te bâtir une construction intellectuelle en disant, mais oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est normal que nous, on fasse telle chose. Mais tu sais dans ton cœur que ce que tu décides là n'est pas biblique. Même si tu as essayé de te bâtir une théorie là-dessus. C'est faux, bien-aimé. C'est faux. Tu sais que Dieu dit, il ne faut pas se venger. Tu connais tout ça, mais tu vas essayer d'oublier ça pendant un temps, faire un travail. Non, bien-aimé. Beaucoup se bâtissent des théories pour justifier leur comportement, mais la Bible dit, tous ceux qui bâtissent ainsi bâtissent en vain, parce qu'ils bâtissent sans Dieu. Il faut bâtir avec le Seigneur. Le système du monde, c'est quoi, bien-aimé? C'est travail. Quand tu travailles, tu produis. Tu travailles pendant 8 heures, tu produis tel nombre d'outils manufacturés. Donc, tu travailles et le soir, il y a une production. Tu travailles et le mois, à la fin du mois, il y a une production. Tu travailles et à la fin de la semaine, il y a une production. Et bien aimé, finalement, Dieu devient qui? C'est le travail qui devient ta vraie ressource. C'est en fonction de ton travail que tu as une production. Et maintenant, quand la production ne suffit plus, il faut encore travailler. Donc tu vas vivre en fonction de ta production. Et ce qui est grave, c'est que le diable réussit à te convaincre que ta production Parfois, qu'elle est, alors qu'elle est suffisante, il arrive à te convaincre qu'elle est insuffisante. Donc, tu dois encore travailler davantage. C'est ce qui se passe dans le monde. Les gens gagnent à tel point qu'ils produisent à tel point qu'ils arrivent à la surproduction. Et vous allez voir quelqu'un finir sa vie, mais il n'est plus bien parce qu'il a trop travaillé, son corps ne réagit plus. Il a gagné, il a obtenu une maison par son travail, une belle voiture, mais son corps ne réagit plus. Il est malade, il n'est pas bien. L'excès de travail, le travail devenu Dieu. Dieu dit que tous ceux qui travaillent sans lui, ils travaillent en vain, ils bâtissent des choses en vain. Un jour ou l'autre, même la mort va mettre un point final à tout cela. Mais celui qui bâtit dans l'Éternel, même si la mort vient, la suite est là, bien-aimé. C'est ça le système du monde. Tu travailles et c'est ton travail qui produit. Mais le système de Dieu, c'est quoi? Tu sèmes et c'est Dieu qui travaille et toi tu récoltes. Voilà. Tu sèmes et tu récoltes. Tu peux, dans le système de Dieu, tu peux aussi paître. Tu fais paître. Et pendant que tu fais paître, tu manges de ce que tu fais paître en même temps. Le lait sort des brebis. Le lait sort des brebis. La laine sort des brebis. Tu t'habilles de cela. C'est comme si la vie, dans ce que Dieu te donne comme travail, il y a ta vie en même temps. Tu vis dedans. Alors que dans le système du monde, quand tu travailles, tu as l'impression que ta vie est en train de partir aussi. Tu es en train de donner ta vie. Alors que dans le système de Dieu, pendant que tu es en train de paître les moutons, les brebis, les vaches, tu manges, tu vis en même temps de leur peau. Tu vis en même temps de leur lait. Leurs excréments servent à fertiliser le sol. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans tout cela, par rapport à cela? C'est que Dieu donne comme travail, produit la vie, alors que ce que le monde donne comme travail, produit la mort. Tu es obligé de faire des stratégies pour mentir, des stratégies pour manipuler. Et à la fin, tu as l'orgueil, parce que tu as beaucoup travaillé, c'est toi l'homme fort. Tu as l'orgueil d'être riche, parce que ça vient de toi. Mais celui pour qui Dieu a travaillé est humble parce qu'il sait que c'est le cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu. Bien-aimés, revenons au système du Seigneur. Nous vivons une époque où Dieu nous ramène à la vérité totale avant l'enlèvement. Jésus a dit à ses disciples, partez en mission, mais ne prenez ni bourse, ni argent. Allez comme ça. Je m'occuperai de vous. Nous vivons une époque où l'inquiétude va amener les gens à mentir, à se corrompre, parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de ne plus manger. Ils ont peur d'être expulsés de la maison. Ils vont commencer à vouloir raisonner comme dans le monde. Ils vont chercher à travailler sans l'Éternel. Et la Bible dit, ils travaillent en vain. Ils vont négliger l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils vont négliger l'œuvre de Dieu parce que c'est leur travail qui compte, parce que c'est le travail qui produit leur vie. En réalité, la Bible dit que c'est le pain de douleur qu'ils vont manger. Dieu est celui qui veut qu'on travaille au bon moment. Il a tout prévu. Il dit, reposez-vous sur moi. Je vous ferai travailler au bon moment et vous récolterez au bon moment. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous ne vivons pas de notre salaire. Nous vivons de la grâce de Dieu. Nous travaillons parce que nous devons être utiles dans la société, parce que nous devons être un témoignage dans la société. Le Seigneur a dit que l'homme travaillera pour vivre. Et nous travaillons pour cela. Mais seulement nous vivons de Dieu. Parce que c'est lui qui pourvoit nos besoins. Il nous l'a dit dans Matthieu 6. Il a dit, s'il pourvoit aux besoins des oiseaux, à combien plus forte raison de nous les humains. Peu importe le travail, ça peut être un travail pastoral. Tu dois faire ta part. Prêcher, prier, faire ta part et laisser Dieu travailler, sauver les âmes, les faire de ces âmes des disciples. C'est, nous devons compter sur Dieu. Tous ceux qui mettent des méthodes, je connais une église aux États-Unis où tu deviens membre, on te fait signer un contrat. Donc c'est clair, quand on te fait signer un contrat, tu as même peur de quitter parce qu'il y a le contrat qui est là que tu as déjà signé. Il y a tout un système mis en place pour garder les membres et pour les faire travailler selon le goût du pasteur. Bien-aimé, tout ça c'est des travaux en vain parce que ça ne produit pas des disciples, ça produit des adeptes, ça produit des moutons, des gens qui vont suivre aveuglément, mais dans lesquels la grâce de Dieu ne va pas couler. C'est en vain tout cela. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de ça. À un moment, Jésus-Christ, en faisant le travail du Seigneur, les disciples l'ont fui, sont partis. Il n'est resté que les 12. Mais aujourd'hui, nous sommes des millions de disciples, grâce à ces 12-là, bien-aimés. Parce que Jésus préférait faire confiance à son Père, faire le travail que le Papa demandait de faire, prêcher, dire ce que le Père voulait qu'il dise. Même s'il ne restait plus que 12 personnes, il comptait sur le Père, il se reposait sur lui. Nous devons l'imiter. Nous ne devons pas chercher à manipuler, chercher à faire des stratégies humaines pour faire avancer l'œuvre de Dieu, des stratégies humaines pour avoir une promotion au travail, des stratégies humaines pour réussir à l'école. Nous devons faire notre part, travailler au bon moment. Et Dieu fera le reste. Parce que tout ce qui compte se repose sur le travail humain, et c'est en vain tout cela. C'est en vain tout cela, bien-aimé. C'est en vain. Vous savez, bien-aimé, moi j'ai expérimenté ça même avant d'être chrétien. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a voulu me faire un avant-goût de lui. J'ai fait 6 ans avec des gens à partir du collège, avec les mêmes personnes. La plus haute place que j'avais eue pendant ces 6 ans-là, c'était peut-être 8e de classe. Mais c'est toujours les mêmes personnes parce que c'était une école sérieuse et c'était les mêmes personnes avec qui on allait de l'entrée du collège jusqu'au bac. Bien-aimé, à la fin, brutalement, en terminale, je deviens premier. Comme par accident. Mais bien-aimé, il faut voir le travail qu'ont fait les autres. Ils ont fait un travail et moi j'allais le soir un peu m'amuser en plus. Je dis bien que c'est il faut pas, je précise, il ne faut pas imiter cet exemple-là. Je veux seulement dire que Dieu déjà me l'a montré dans le monde. Donc les gens qui travaillaient, qui souffraient, mais toi tu ne travailles pas, tu souffres pas, mais tu as les meilleures notes. Alors, si ça peut se faire dans le monde, mais à combien plus forte raison avec Dieu? Mais Dieu veut qu'on puisse travailler au bon moment. Dieu n'est pas contre le travail. Il veut un travail qui dépend de lui au bon moment. Un travail qui est comparable au fait de semer. Donc quand tu sèmes, il y a un temps où tu comptes sur Dieu. Un travail où tu ne comptes plus sur Dieu, il y a un problème. Tu sais que j'ai fait, à la fin j'ai telle chose, il y a un problème. Le vrai travail doit laisser un espace pour Dieu. Dans la foi, Dieu ne viendra pas visser à ta place. Hein. Mais après avoir vissé, après avoir tout fait, tu dis, Seigneur, j'ai fait ma part, fais ta part, que cela tienne. Fais ta part, s'il y a une erreur que tu me montres. Il y a une place laissée toujours à Dieu. Lorsqu'il n'y a plus de place laissée à Dieu, c'est on travaille en vain. On travaille en vain. Tu fais les maths ou l'informatique, tout ce que tu veux, après avoir appris tes cours, après avoir travaillé. Avant l'examen, tu pries que le Seigneur soit avec toi et agisse. Et quand tu as fini l'examen, tu pries encore que la suite soit entre dans ses mains. Il faut laisser la place à Dieu. Ceux qui bâtissent sans Dieu bâtissent en vain. Ceux qui comptent sur leur propre force, ils vont décider finalement, bon oui, moi comme j'ai des examens, pendant 1 mois je ne viendrai plus au culte parce que je dois me concentrer sur mes examens, mais tu bâtis en vain, bien-aimé. Je regrette. Dieu a dit dans sa parole, il y a un temps pour tout. Il y a surtout un temps pour le louer en priorité. Et il a laissé aussi le temps pour autre chose, travailler et faire autre chose. Mais tout cela doit être coordonné autour de lui. C'est important, bien-aimé. Beaucoup sont en train de bâtir en vain. Ils mentent pour avoir de l'argent. Ils font des compromis pour avoir de l'argent. Ça, c'est bâtir en vain. Ils s'inquiètent pour gagner de l'argent. C'est bâtir en vain. Jésus, quand il est ressuscité, il a dit à ses disciples, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Ne vous inquiétez pas. Que la paix soit avec vous. Quand on commence à s'inquiéter, c'est un travail s'inquiéter. Hein? On travaille en vain. Et la Bible dit que ce n'est pas en s'inquiétant que tu ajouteras une longueur à la durée de ta vie. Tu travailles en vain. Il faut compter sur Dieu. Il faut se reposer sur lui. Le système de Dieu, c'est semer et récolter. Ceux qui refusent ce système-là, ils entrent dans l'insatisfaction. Ils produisent, mais sont insatisfaits. Il faut travailler encore plus. Ils produisent, et quand il vient le moment de se réjouir de ce qu'ils ont eu comme production, ils sont épuisés. Ils sont fatigués. Ils n'ont plus de goût. Ils produisent, mais ils ne sont pas bien. Ils mangent le pain de douleur, comme on vient de lire dans Psaume 127. Et le travail augmente sans fin. Aujourd'hui, il y a des cadres qui se réveillent à 8 heures, qui dorment à 22 heures. 8 heures, banquiers, 8 heures, 22 heures. Certaines personnes, des cadres qui restent là jusqu'à 22 heures parce qu'il faut rester là jusqu'à 22 heures. Ils produisent, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont perturbés. Et il y a l'envie qui est là. Imiter l'autre. Gagner comme l'autre. Après, il y a le vol. Puisqu'on n'arrive pas à gagner ce qu'on veut par le travail ne satisfait pas. Parce que ne vous en faites pas. Aucun travail humain ne satisfera. Et à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On vole. On fait travailler des enfants. On fait travailler. Je suivais même à la radio en venant. Quelqu'un expliquait que le travail au noir est obligé, quoi. Donc s'il n'y a pas ça, les chefs d'entreprise ne peuvent pas s'en sortir. Donc à un moment donné, le travail ne satisfait plus. Maintenant, on vole. On fait travailler les enfants. On fait travailler des gens au noir. Parce qu'à un moment donné, le travail va échouer. Parce que l'homme est insatisfait. Mais alors que l'homme qui compte sur Dieu, quand il récolte, il se contente de ce qu'il récolte. Il ne cherche pas plus. Mais celui qui compte sur son travail, dans sa tête, il se dit, j'ai l'instrument de ma production. L'instrument de ma production, c'est le travail. Je l'ai dans ma main. Donc, il suffit que j'agisse sur cet instrument, je peux augmenter ma production ou la baisser. Donc, comme je l'ai dans ma main, le travail, ben, je vais l'augmenter, le travail. Comme ça, j'augmente ma production. Et quand la production est là, il est toujours insatisfait. Alors, quel est l'instrument que j'ai? Ben, je l'augmente encore. S'il faut utiliser les enfants, on va utiliser. S'il faut mentir, on va mentir. S'il faut glisser des produits toxiques pour augmenter la quantité, comme on a vu l'huile qui était l'huile de camions ou de moteurs qui a été utilisée pour nous dans nos huiles. Ménagères, s'il faut faire tout ça, augmenter en Chine là-bas pour augmenter les protéines, on utilise un produit chimique. Donc, tout ce qui. La production ne satisfait personne, puisque les gens sont insatisfaits parce qu'ils n'ont pas Dieu. Alors, ils chercheront toujours à produire plus et ils seront obligés d'agir sur le travail, de mentir, de voler, d'escroquer. Et bien aimé, dites-vous bien que c'est la même chose dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel. Quand un serviteur de Dieu ne sait pas se contenter de ce que Dieu lui donne, il va chercher à mentir, à voler et à escroquer. C'est la même chose. Il faut être prêt à se contenter de ce que Dieu donne. C'est ça, s'aimer et récolter. Parce que quand quelqu'un récolte, il ne peut pas inventer. Il ne peut pas inventer ce qu'il récolte. Il dépend de ce qui a été semé. Ça a été semé, je ne peux que récolter ce qui sort des arbres. Je ne peux pas créer un autre arbre. Donc, en quelque sorte, il est limité par le fait que la récolte vienne des arbres. Alors que quelqu'un qui travaille, il n'est pas limité parce que c'est lui qui travaille. Il peut encore aller loin. Il peut encore utiliser des gens et mentir. C'est ça la différence. Dieu veut que nous apprenions à s'aimer et à récolter. Comprendre cela. Nous avons notre part, il a sa part. Celui qui travaille et compte sur son travail, il stresse, il s'épuise. Et on entend combien de gens qui se suicident. Hein? Dernièrement, j'ai appris qu'un pasteur qui avait fait une grande conférence, il attendait dans les 10 000 personnes, et le premier jour, il n'y avait que 400 personnes. Et Le deuxième jour, il y avait, ça je ne connais pas, mais le troisième jour, je connais à peu près 3000. Mais le deuxième jour, je ne connais pas le nombre, mais il paraît qu'il a eu un malaise cardiaque, les pompiers sont venus. Vous voyez comment, quand on veut travailler par ses propres efforts, on finit par inviter les pompiers. Voilà. Bien-aimés, n'invite pas les pompiers. Pour ne pas inviter les pompiers, sois en paix et cherche à s'aimer. Tu dis, Seigneur, moi je sème et la récolte viendra de toi. Et je me contenterai de la récolte qui viendra. C'est cela, parce que c'est toi qui as décidé. Il y a ta part. Bien-aimé, c'est deux logiques différentes. Psaume 127. Première logique, le pain des douleurs. Ceux qui bâtissent sans Dieu, ils travaillent en vain. Deuxième logique, ceux qui bâtissent avec Dieu, ils sont en paix. Ils suivent la logique de la semence, la logique de paître. Ils suivent ça et Dieu s'occupe du reste. Et ils vivent de Dieu lui-même. C'est clair, bien-aimé. L'homme animal, voilà, il cherchera toujours à compter sur son travail. L'homme charnel aussi, le chrétien charnel, comptera sur son travail, alors que l'homme spirituel, le chrétien spirituel, va compter sur Dieu. Il va faire sa part et il va compter que Dieu fasse aussi sa part. Tout ce qui doit intéresser l'homme spirituel, c'est quoi? C'est le bon moment. Semer au bon moment. Moi, je ne suis pas en train de dire que l'homme spirituel ne va pas travailler, mais il va travailler dans l'obéissance à Dieu. Il ne travaille pas pour produire, il travaille pour obéir. Il sait qu'en travaillant, j'obéis à Dieu. En priant, j'obéis à Dieu. Donc, j'ai donné le bon exemple. Quand on paie un troupeau, il y a le lait qui vient de ce troupeau-là. Donc, dans le travail même que tu fais, tu es comme un béni, quoi. Il y a le lait qui est là, le troupeau, ce sont des êtres vivants qui te réjouissent. Rien qu'à les observer. C'est pas comme quand on travaille dans une usine, je suis pas contre cela, mais c'est un exemple, quand on travaille dans une usine où tout le monde est pressé, allez, tu envoies la pièce, et c'est le stress, c'est la tension totale. Non, le travail que Dieu donne, c'est comparable au fait de paître. Il y a une production qui est sous-jacente à ce travail-là. Et ensuite, à la fin, il y aura encore une autre production qui est récoltée, quoi. C'est extraordinaire. C'est ça le système de l'homme spirituel. Il dépend de Dieu. Il fait sa part au bon moment. L'homme spirituel n'est pas paresseux. Mais la différence, c'est que pendant que l'homme spirituel travaille et l'homme charnel travaille, l'homme spirituel, lui, il travaille à l'aise. Parce qu'il est animé de la puissance du Saint-Esprit. Il travaille à l'aise parce que le travail même qu'il fait lui produit de la joie. Alors que l'homme charnel, pendant qu'il travaille, il se dit, je dois prier, jeûner. Il le voit comme une souffrance qui va produire quelque chose. Alors que l'homme spirituel, déjà en priant, il se sent bien d'être en contact avec Dieu. Ils font le même travail, mais l'homme spirituel est content. L'homme charnel est comme en colère le temps que son travail lui produise quelque chose pour qu'il soit content. Alors que l'homme spirituel n'attend pas la production pour être content. Il est content même pendant qu'il travaille. Parce que c'est un travail de Dieu. Au bon moment, pendant qu'il prie, il est content. Pendant qu'il lit la parole, il est content. Il n'est pas comme un étudiant qui serait à l'école en train de lire parce qu'il faut réussir les examens. Non, lui, il est content de lire, de connaître Dieu à travers sa parole. Nous étions des écoliers, on était parfois mécontents de certains cours, mais tu es obligé de les lire pour réussir les examens. Mais l'homme spirituel, quand il lit la parole, il est content parce qu'il entre en contact avec son Dieu. Il est content parce qu'il connaît son Dieu, il connaît les trésors de la vie. C'est ça la différence. L'un mange le pain de douleur, l'autre se repose en vivant de la production divine. Mais tous deux travaillent. L'homme spirituel travaille au bon moment. Et donc, ce qui est important pour l'homme spirituel, c'est quoi? C'est d'être à son poste, au bon moment. Nous lisons d'Habacouc. Habacouc, au chapitre 2. La Bible dit ceci, au verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. L'âme de qui est enflée? L'âme de l'orgueilleux est enflée. L'orgueilleux compte sur son travail, mais le juste vivra par la foi. Même si lui aussi travaille, mais il vit par la foi. C'est ça la différence. Il compte pour joindre les deux bouts du mois, selon l'expression, il compte sur Dieu, non pas sur son travail. Mais celui qui compte sur son travail finit par se retrouver à découvert. Mais celui qui compte sur Dieu est à l'aise, parce qu'il sait que c'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. Celui qui compte sur Dieu, il sait se contenter de ce que Dieu lui donne. Et il est heureux de se contenter de ce que Dieu lui donne. Il faut être à son poste, bien-aimé. Là où Dieu t'attend, là où Dieu a besoin de toi. Si c'est garder les enfants, c'est là où Dieu a besoin de toi. Si c'est dans un travail séculier, c'est là où Dieu a besoin de toi. Si aussi ce n'est pas travailler d'une manière séculière dans le monde, c'est là où Dieu a besoin de toi, bien-aimé. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Il faut être à son poste. Si c'est dans les études, c'est là où Dieu a besoin de toi. Et comme je l'ai dit récemment, le chômage pour un chrétien véritable n'existe pas, parce qu'un chrétien véritable est toujours au service du Seigneur. Et dans ces conditions-là, il doit être heureux. S'il a fait toutes les démarches pour avoir du travail et qu'il n'y a pas du travail, il est heureux d'être sans travail, parce qu'il travaille en réalité pour le Seigneur. Et le jour où le Seigneur veut lui donner un travail, le travail viendra et il travaillera pour la gloire de Dieu. Il ne compte pas sur le travail, sur son travail, il compte sur la foi. Le juste vivra par la foi. Il compte sur son Dieu, bien-aimé. C'est ce qui est écrit. L'homme qui compte sur son travail est enflé, est orgueilleux, mais le juste vivra par la foi. Il est juste à son poste. Il cherche la face de Dieu pour savoir où est-ce qu'il doit se trouver, à quel moment. C'est ce qui l'intéresse. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? C'est ce qui l'intéresse. Ce n'est pas son travail qui compte. C'est ce que Dieu attend de lui. Et pendant qu'il est à son poste, il est au travail. C'est ça, bien-aimé. Que ce soit à l'usine, que ce soit dans une banque, du moment qu'il est à son poste, il est au travail. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit en retraite, du moment qu'il est à son poste, il est au travail. Et ce travail-là est comparé à quelqu'un qui sème. Un jour, il récoltera. Bien-aimé, regardez les rapports qu'il y a entre semer et récolter. Regardez la quantité qu'on récolte après avoir semé un seul grain. Regardez maintenant ce qu'on récolte. Vous voyez la dimension de Dieu. Alors que dans le travail, on est limité. Hein? Travail de 8 heures pour produire ce qu'on peut produire en 1000 heures, c'est impossible. Mais Dieu, lui, il multiplie. Alors que le monde nous donne en pourcentage 30% de plus, 50% de plus. Alors que Dieu, lui, il multiplie extraordinairement lorsqu'on sème. Alors il faut, bien aimé, accepter de suivre la logique de Dieu. De semer, de paître, de gérer, et c'est Dieu lui-même qui fait croître. Et on fait les choses dans la joie. Puisque le Saint-Esprit œuvre. La Bible dit dans Ésaïe 40, 28 à 31. Ésaïe 40. Restons à notre poste. Rester à notre poste, c'est rester dans l'intimité avec Dieu, savoir ce qu'il attend de nous. Quelle réaction pour tel problème qui se pose. C'est ça, rester à son poste. Ésaïe 40, à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voilà ceux qui se confient en Dieu. Ils ne se fatiguent pas. Ils peuvent être épuisés physiquement, mais l'action de Dieu en eux ne s'arrête pas pour autant. C'est ce que Dieu veut dire par « ils ne se fatiguent pas ». L'action de Dieu continue malgré leur épuisement apparent. Dieu travaille. Ils courent sans se lasser parce qu'ils sont toujours dans la logique de Dieu. C'est important. Ils marchent sans se fatiguer alors que les jeunes hommes se fatiguent parce qu'ils ne sont pas dans la logique de Dieu. Ils s'épuisent. La Bible dit dans Proverbe 3, si on ne s'appuie pas sur notre intelligence, 5 à 8, on se confie en Dieu et nos os seront rafraîchis. On se sent toujours bien, même si le travail nous dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. On fait notre part et on laisse à Dieu sa part. Et à chaque fois, on est surpris de la production, on est surpris de la récolte, alors qu'on se souvient d'avoir été si faible, si petit, mais la récolte est là. On est surpris parce que Dieu a travaillé. Il faut se confier en Dieu. Zacharie 4, 6 dit, « Ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni la violence, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » C'est l'esprit de Dieu qui fait la différence. Les chrétiens, nous devons en prendre cela. C'est l'esprit qui fait la différence. Continuons à faire notre part. Nous serons surpris par la récolte. Parce que c'est l'esprit qui fait. La Bible dit, « Ne vous lassez pas de faire le bien. » Ne vous lassez pas. Il faut continuer à travailler, même si ça paraît petit. Mais c'est ça notre semence. Et l'expérience montre que la récolte est extraordinairement plus grande que la semence. Extraordinairement plus grande. On sème un grain, on récolte des milliers d'autres grains. C'est ce que Dieu permet. Jean 7, 37 à 39 dit ceci, que celui qui a soif, qui vient de boire, ceux qui croient en moi, Jésus dit, de fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Bien-aimés, que personne ne nous pousse à faire les choses par la chair. L'Esprit de Dieu est une réalité. Il coule en nous et il travaille. Il va te lever le matin pour prier. Il va t'amener à méditer la parole. Il va t'empêcher de tomber. Il est là, il agit. Nous devons faire confiance en Dieu, être à notre poste, être là où Dieu nous attend. Où Dieu veut que nous soyons, être attentif à lui, dire ce que Dieu veut qu'on dise, choisir la personne que Dieu nous t'a montrée, ne pas faire les choses par calcul mathématique, ne pas faire les choses par calcul humain. Dieu est grand et fort. Soyons à notre poste, bien-aimés. Ne nous laissons pas impressionner par la pression des humains. Ne nous laissons pas impressionner par le visible. Restons en paix, bien-aimés. Ceux qui travaillent sans Dieu travaillent en vain. Nous, quand je suis venu en France, nous avons trouvé des gens qui avaient deux voitures de luxe, des meubles de luxe, des choses de luxe. 10 ans après, ils n'avaient plus rien. 10 ans après. Et toi qui n'avais rien, 10 ans après, tu as des choses. Bien-aimé, souvenez-vous, nous tous à un moment de notre vie, on a gagné des sommes importantes. On a eu des sommes importantes dans nos mains, que ce soit à travers nos parents. Il y en a qui ont eu des parents riches au milieu de nous. Souvenons-nous de tout ce qu'on avait à un moment donné et qu'on a perdu. Ceux qui bâtissent sans Dieu bâtissent en vain. Bâtissent en vain. Il y a des gens aujourd'hui qu'on aide en envoyant 100 euros, 50 euros, mais c'est des gens qui nourrissaient 30 personnes. Mais aujourd'hui, ils sont obligés d'être aidés. Parce que ceux qui bâtissent sans Dieu, bâtissent en vain. Une œuvre spirituelle que tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Ta famille que tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Si tu fais des choses par calcul humain, bien-aimé, c'est toi qui pleureras. Mais si tu t'humilies et tu fais les choses selon Dieu, tu verras le fruit. Tu verras le fruit. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Acceptons la paix de Dieu. Et tout ce qui nous dépasse, prions. Un homme spirituel, c'est un homme qui prie. Il prend tout ce qui le dépasse, il le soumet à Dieu. Dieu arrange. Un homme spirituel, c'est un homme qui obéit. Il prend la Bible et il obéit. Il ne fait pas de compromis. Il ne fait pas des arrangements. pour faire passer la pilule. Non, il suit la Bible. Bien-aimé, tu pars en évangélisation, tu suis la Bible. Ne fais pas des arrangements pour faire accepter quelqu'un le Seigneur rapidement, pour que tu dises à la fin de la journée, j'ai fait accepter Jésus à 5 personnes, à 10 personnes. Non, dis la vérité. Celui qui voudra accepter, qu'il accepte. Celui qui ne veut pas, même si tu dois retourner bredouille, tu retournes bredouille. Voilà. Mais au moins tu as dit la vérité, et la vérité libérera les gens. Bien-aimés, bâtissons selon Dieu dans tout ce que nous faisons. Bâtissons selon Dieu. Le Seigneur dit dans Psaume 46, au verset 10 à 11, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu et je domine sur toutes les nations. » C'est Dieu qui domine. Bien-aimés, quand Dieu domine, tout le reste suit. Ne laissons aucune part du travail que nous faisons, des projets que nous avons, aucune part sans Dieu. Aucune part. Dieu doit être dans tout, bien-aimés. Dans tout. Et nous clôturons par le psaume 112. La Bible dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Je recommence, bien-aimé. C'est tellement extraordinaire. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Qu'est-ce que Dieu attend du juste ? Que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, la puissance viendra. L'envie de prier, l'envie d'évangéliser. Tu seras dans la ligne de Dieu et le reste viendra. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Voilà ce que dit Dieu. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Qui règle ses actions d'après la justice. Il ne fait pas d'injustice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, pas de stress, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Voilà le juste. Il a plaisir à Dieu. Plaisir au commandement de Dieu. Et Dieu s'occupe de tout. Il y a la prospérité. Même ceux qui ne cherchent pas, il obtient. Vous savez, un jour je parlais avec des chrétiens. J'ai dit, mais je ne comprends pas les pasteurs qui mentent pour avoir de l'argent. Mais Dieu donne même quand on est dans la vérité. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Je ne comprends pas ceux qui manipulent pour devenir riches. Alors que Dieu, comme il a dit dans Psaume 127, pendant que ses serviteurs dorment, il s'en occupe, bien-aimé. On était à l'aéroport au retour. J'avais une glacière et donc je me disais que la glacière va faire beaucoup plus de poids dans mes bagages. J'ai donné à un frère, j'ai dit tu feras passer ça dans tes bagages. Mais arrivé près d'enregistrer mes bagages, c'est comme s'il y a une impulsion qui vient en moi. Je récupère ma glacière, je fais passer. Et la dame dit, mais ça vous fait passer 5 kilos, vous avez 5 kilos d'excédent. Donc elle voulait prendre une décision. Après elle dit, bon, elle fait passer ça, bien-aimée. Si tu es avec Dieu, si tu obéis à sa voix, Dieu te fera marcher dans le repos, bien-aimé. Les choses passeront ou là où ça bloque pour d'autres, bien-aimé. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. On dit, mais il y a 5 kilos d'excédent. Tu regardes la personne. Les 5 kilos se transforment à zéro, bien-aimé. Parce que Dieu est tout puissant. Je ne comprends pas, bien-aimé. Humainement, je ne comprends pas ceux qui veulent travailler sans Dieu. N'avons-nous pas d'exemple devant nous? Les Michael Jackson, les Omar Bongo qui sont dans le tombeau maintenant. On a trop d'exemples de gens qui ont travaillé sans Dieu, qui ont échoué. On en a beaucoup trop. Donc, refuser de travailler avec Dieu, le Créateur, c'est vraiment une erreur de folie. C'est de la folie, avec tous les exemples qu'on a devant nous, de gens qui ont échoué en mentant. Ils ont gagné pour un temps, mais ce n'est que l'apparence. La mort vient tout enlever. Alors que ceux qui sont avec Dieu, Jésus promet qu'il les ressuscitera au dernier jour et leur prospérité continuera. Déjà sur terre, ils vivront dans la prospérité. Ils ne sont pas obligés de posséder pour être prospères. Bien-aimés, on n'est pas obligé de posséder pour être prospères. On n'est pas obligé. Il suffit d'utiliser, de vivre de ce que Dieu donne. Même si on ne possède pas cela, Dieu va nous donner. Il va te donner une belle maison. Même si elle n'est pas à toi, mais tu vas y vivre. Le plus important, c'est vivre. C'est la vie. Ce n'est pas posséder, bien-aimé. Ne bâtissons pas en vain. Bâtissons avec le Seigneur. Que dans tous nos projets, Dieu soit le centre. Nous verrons la prospérité. Nous nous réjouirons. Les gens même seront contre. Mais la Bible dit, nous allons voir leur désir périr. Nous allons le voir. Cela, bien-aimé. Et un jour, ils reconnaîtront que Dieu était avec nous. Restons honnêtes. Ne réagissons pas comme les humains qui ne pensent qu'au mal. Prospérons en pensant qu'à Dieu. Bâtissons avec le Seigneur. Quel que soit le domaine, la famille, le mariage ou autre chose, bâtissons avec le Seigneur. Mettons la Bible au-dessus de tout. Que ce soit la Bible, notre autorité totale et suprême. Et nous verrons les choses se libérer et la prospérité se manifester. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Laissez Dieu dominer et quand Dieu domine, et le reste suit. Et quand on laisse Dieu dominer, forcément on attire des ennemis. Quand on laisse Dieu dominer, forcément on attire les conflits. Mais soyons fermes dans notre position de laisser Dieu dominer tous les domaines de notre vie. Soyons fermes. Soyons conscients que bien-aimés, si Dieu ne domine pas, on perd. Même si en apparence, on peut conserver une amitié. Même si en apparence, on peut conserver des amis ou on peut conserver un travail, on perd. Mais si on laisse Dieu dominer et qu'on perd ces choses-là, Dieu va nous les redonner. Mais des choses qui vont nous reposer cette fois. C'est ça la volonté de Dieu, bâtir avec lui. Et nous aurons tout ce dont nous avons besoin, et pour la terre et pour le ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons prier. Que tu nous aides à bâtir avec toi, Seigneur. À bâtir avec toi. À compter sur toi. Toi qui as donné l'instruction aux disciples. Une grande instruction, Seigneur. D'aller à l'évangélisation, d'aller à la moisson sans amener d'argent, Seigneur. Toi qui leur as donné cette instruction, Seigneur. Nous prions que nous puissions nous confier en toi totalement. Parce que si tu as donné une telle instruction difficile, c'est que la bénédiction était très grande, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous confier en toi, à bâtir qu'avec toi, à ne pas compter sur les humains, même s'il faut travailler avec les humains, à ne pas nous reposer sur eux, mais à nous reposer sur toi. À être à notre poste, Seigneur. À ne pas envier le poste d'autrui, Seigneur. À ne pas envier la place d'autrui. Mais à être à notre poste, dans notre territoire, désigné par toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à savoir attendre. Aide-nous à savoir, Seigneur, discerner les temps. Il y a des temps de semer, il y a des temps de récolter, Seigneur. Aide-nous à discerner. Aide-nous surtout, Seigneur, à réaliser que la soumission à ta parole, la soumission à l'Esprit Saint, c'est cela à rester à notre poste, Seigneur. La soumission aux autorités que tu as établies, c'est là à rester à notre poste, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à croire et à vivre comme des justes. Ainsi, nous ne craindrons pas les mauvaises nouvelles. Nous n'aurons pas peur du lendemain, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, car tu es le soutien de ma vie. Car tu es le soutien de ma vie. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, car tu es le soutien de ma vie. Car tu es le soutien de ma vie. Oh mon roi, oh mon roi, oh mon roi, car tu es pour moi, car tu es pour moi un refuge, car tu es pour moi un refuge. Oh mon roi, oh mon roi, oh mon roi, car tu es pour moi un refuge, car tu es pour moi un refuge. Quand je crie, tu réponds, oh mon Dieu, oh mon roi, c'est à toi que je crie, oh mon Dieu, ta justice, c'est à toi que je crie, oh mon Dieu, ta justice. C'est à toi que j'adresse ma prière, ô Seigneur.
C'est à toi que j'adresse ma prière, ô Seigneur. C'est à toi que j'adresse ma prière, ô Seigneur.
C'est à toi.
C'est à toi que j'adresse ma
prière.
Oh Seigneur,
c'est à toi.
C'est à toi que j'adresse ma prière. Oh Seigneur,
prions bien-aimés.
C'est à toi que
vous restez fidèles à Dieu.
Alléluia. Oh Seigneur,
nous prions, Seigneur, que tu nous aides à demeurer fidèles comme Abraham. à demeurer fidèle à ta parole, à demeurer fidèle à ton Esprit Saint, fidèle à ta logique, Seigneur. Même si le royaume s'ébranle, la terre tremble, les flots de la mer mugissent, Seigneur, que nous demeurions fidèles à ta parole. Que nous puissions nous éloigner ni à gauche ni à droite, Seigneur. Que nous restions fermes sur la voie de la vérité, Seigneur. Malgré nos faiblesses, Seigneur, que nous puissions nous reposer sur toi, Seigneur. Car tu es notre seul secours. Nous nous souvenons, Seigneur, Pierre était déstabilisé par le fait que tu avais dit qu'il faut te manger. Mais lorsqu'il a fallu partir, il n'est pas parti, il a dit « Je ne peux pas, Seigneur. » C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. David a dit « Je préfère être dans la maison de Dieu au lieu d'être dans la tente des méchants. Même si c'est une tente qui a beaucoup de richesses, je refuse la tente des méchants. Je veux la maison de l'Éternel, dans la simplicité, dans la vérité. Oh Seigneur, aide-nous à demeurer fidèles, à prier sans cesse, à garder la foi, Seigneur, comme notre frère Paul l'a gardé jusqu'au bout. Car nous croyons que, comme Habacuc l'a dit, il y a un jour où la différence est démontrée entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, Seigneur. Entre ceux qui sont de toi et ceux qui ne le sont pas. Aide-nous à nous attacher à toi, Seigneur.